propose qu'à la fin de cette scène, on puisse élever une prière tous ensemble pour les familles des deux piétons qui ont été tués ici à 500 mètres ici cette semaine. Donc une voiture qui a renversé deux piétons. Donc il y a deux pages dans la Voix du Nord à ce sujet. Ouais. Trois ? Non, c'est deux. Ah oui, d'accord. Voilà, donc j'imagine le désarroi et l'anéantissement de la famille, des familles, à la fois les familles du chauffeur aussi, qui ça doit être terrible, encore plus terrible. Voilà, je sais que l'un des piétons tués s'appelle Christophe, et juste, il était conscient encore, et il a demandé qu'on prévienne ses parents, ouais. Donc voilà, si on peut élever une prière pour que Dieu visite ces familles, hein, les familles de ces deux piétons, la famille de Christophe, la famille de son ami, c'est une amie à Christophe qui est décédée aussi. Voilà, vous êtes d'accord? Voilà, je vous invite, on élève la voix. Seigneur, viens visiter par ton Saint-Esprit. Viens visiter par ton Saint-Esprit ces deux familles. La douleur est trop grande, trop immense, mais toi, tu as connu on vient de lire, tu es l'homme de douleur. Donc l'homme de douleur comprend les douleurs humaines. Seigneur, viens visiter dans des songes, des rêves, des rendez-vous divins. Peut-être tu peux nous permettre un contact au moment des funérailles ou à un autre moment. Seigneur, viens, s'il te plaît, te révéler, apporter ta consolation et amener ces familles dans la résilience. Amener ces familles dans cette résilience et de se ressaisir en découvrant qui tu es. Et viens leur redonner l'espérance de vivre. Amen. Au nom de Jésus, amen. Je crois que c'est important qu'on soit au fait des actualités, hein, des événements qui sont là à côté de nous, hein. Voilà, très bien. Alors, aujourd'hui, vous vous rappelez de ce que Pascal a parlé dimanche dernier? Il a parlé de quoi, Pascal, dimanche dernier? Passer de la tristesse à la joie. Donc, il a parlé de la joie, qui est un fruit de l'esprit. Hein, d'accord, Galates 5, 22. Fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Et ce matin, je veux vous parler d'un autre fruit de l'esprit, qui est la bienveillance. Voilà, j'ai reçu ce mot pour ce message, comme si le Seigneur me disait, Jean-Luc, parle de la bienveillance, parce que mon cœur est bienveillant, et je veux que mes enfants aient cette marque-là, cette marque de la bienveillance. À quoi on va reconnaître un chrétien authentique? Par son cœur bienveillant, par le fait qu'il porte le fruit de la bienveillance. D'accord? Alors on voit là, ce garçon, il a la main sur le cœur, il tend la main. Il a envie de bien faire, il a envie de désirer, de soulager cet homme, il a envie de lui communiquer quelque chose. Voilà. Ouais. Alors, je vais relire peut-être le Galates 5, 22. Hein. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà, j'aimerais vraiment vous encourager ce matin à cultiver la bienveillance. Est-ce que ça soit une marque indélébile en nous? Que tous les Wavrinois, tous les habitants de Ronchin, tous les habitants de votre quartier puissent dire, oh là, ceux-là, ils ont la marque divine. Parce qu'ils manifestent la bienveillance. Alors, définition, c'est quoi la bienveillance? Alors, j'ai trouvé plusieurs définitions. La capacité de se montrer indulgent, gentil, attentionné envers autrui, d'une manière désintéressée et compréhensive. Une autre définition, c'est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Alors la bienveillance est avant tout une disposition du cœur. D'accord ? Ce n'est pas dans l'ordre du ressenti, mais c'est de la volonté. L'étymologie du mot, il y a bene qui veut dire bien, et volens, qui veut dire en voulant. D'où on a tiré le nom bénévolat. Bénévolat, d'accord ? Voilà. Être bienveillant, c'est vouloir poser un regard de bonté sur l'autre. Et ça se traduit, hein, par une action qui vise le bonheur de l'autre. Et ceci, quel que soit son comportement. Sans lui imposer quoi que ce soit, sans attendre un retour, forcément. De façon désintéressée. C'est à l'image de Dieu. À l'image du regard qu'il porte sur nous. D'accord ? Avant qu'on le connaisse, Dieu a porté sur nous un regard bienveillant. Avant qu'on s'intéresse à lui. Hein ? Écoutons la parole de Dieu. Hein, c'est dans dans Ésaïe 45, verset 4, il est dit « Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. » Jérémie 32, il n'y a pas le mot bienveillant là, mais c'est la même chose. « Je prendrai plaisir à leur faire du bien, je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. » Et il y a ce fameux passage dans Éphésiens 1 qui dit que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Donc ainsi, la bienveillance a sa source en Dieu. D'accord ? Le plan de salut pour l'humanité a sa source dans le cœur bienveillant de Dieu. Il a formé en lui ce bienveillant dessein de nous racheter, de nous sauver, de nous sauver. Hein. Alors pour cultiver la bienveillance, il faut toujours aller à la source, le cœur bienveillant de Dieu, et garder cette vision de sa bienveillance chaque fois qu'on le prie. Est-ce que quand vous priez, vous vous souvenez de la bienveillance de Dieu ? Si vous ne vous en souvenez pas, votre prière, elle ne va pas aller très haut. Hein. C'est clair. Hein. Psaume 106, verset 4. « Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. » Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause et qu'on chante ensemble le chant « Ta bienveillance ». D'accord ? Pour vraiment, et que pendant ce chant, le Seigneur renouvelle notre vision de la bienveillance de Dieu. D'accord ? Et après, je vais aller plus loin. C'est pas la fin de mon message, c'est que le début. Hein, mais j'avais envie qu'on prenne ce chant, ta bienveillance. Combien ne savent pas que Dieu est bienveillant ? Combien ont une mauvaise image de Dieu ? Ils ont l'image peut-être d'un Dieu ou dur, ou froid, indifférent. Combien ? Et si nous manifestons la bienveillance de Dieu dans nos vies, nous annonçons, nous proclamons, nous signalons justement que Dieu est bienveillant. Et c'est un puissant message qu'on leur adresse. Ça vaut mieux que des grands discours. Ça vaut mieux que des grands discours. Et je pense que tout à l'heure on a prié pour ces familles, combien elles ont besoin de découvrir que Dieu est bienveillant, mais peut-être la première pensée, c'est de dire, mais Dieu, tu es dur, mes enfants sont partis, mais combien il y a besoin de la révélation de Dieu pour découvrir ce Dieu bienveillant. Donc cette bienveillance, elle est la marque, la signature de Dieu dans nos vies. Elle était déjà dans l'Ancien Testament la marque des hommes droits. Proverbe 14 dit, les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Et même si le mot bienveillance ne s'y trouve pas constamment, il y a maintes allusions dans l'Ancien Testament pour décrire l'homme juste et droit, celui qui a un cœur compatissant, miséricordieux. D'accord ? Voilà, et cette miséricorde et cette compassion animent vraiment le cœur bienveillant. Alors, comme on l'a déjà dit en introduction, la bienveillance fait partie du fruit de l'esprit. Mais, comment être bienveillant si on n'apprend pas à être bienveillant envers soi-même ? apprendre à être bienveillant envers soi-même. Ça, c'est important. Et celui qui n'est pas bienveillant envers lui-même aura du mal à exprimer la bienveillance envers les autres. C'est important, hein ? Là, c'est quelque chose que le Seigneur veut nous apprendre. Comment aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même, hein ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette disposition de cœur, on doit l'appliquer à nous-mêmes aussi. Et je vais vous donner quelques conseils, voilà. Des conseils, voilà. De ce que j'ai appris moi-même, que je continue à apprendre. Être bienveillant envers soi-même. Acceptons nos limites. Acceptons de ne pas être au top à 100% tous les jours. Des fois, on est dur. On n'est pas au top et on est dur. On se culpabilise. Quand on n'est pas toujours au top à 100% de toutes nos facultés, d'accord ? Il faut l'accepter. Acceptons nos limites. De ne pas être au top, que ce soit physiquement, mentalement, spirituellement. Acceptons de ne pas être à 100% tout le temps. Parce que, voilà, ce sont nos limites. Acceptez bien sûr qu'on n'a pas tous les dons, tous les talents, et heureusement. Acceptons de rester dans la sphère, dans le mandat que Dieu a pour nous. Que de stress inutile, sinon on ne comprend pas ça. Acceptez de pas être au top à 100%, mais acceptez de pas être au top dans tous les domaines. Il y a des domaines, il faut accepter qu'on n'est pas bon. Acceptons nos échecs. Être bienveillant envers soi-même, c'est accepter nos échecs. Ah oui. Essayons d'avoir un regard positif sur nos échecs. C'est David qui dit : il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. L'échec, lieu d'apprentissage. D'ailleurs, même des non-chrétiens le disent d'ailleurs. Quand j'ai entendu des commentaires de livres des écrivains qui disaient : mais il y a des bonnes choses à accepter les échecs. Et des gens qui ont accompli des grandes choses ont appris à accepter leurs échecs avant. Acceptons notre condition pécheur, notre besoin constant du pardon de Dieu. Acceptons de nous pardonner. C'est pas être bienveillant envers soi que de ne pas accepter de ne pas se pardonner. Et là aussi, si on ne se pardonne pas, on a bien du mal après à entrer dans le pardon pour les autres. Et si je suis sans cesse fixé sur mes failles, mes défauts, mes faiblesses, je risque d'être enfermé dans la culpabilité et dans des sentiments négatifs tels que le rejet, le dénigrement de soi. Je suis nul. Appuyons-nous sur l'amour inconditionnel de Dieu, qui m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je fais. Fixez donc sur notre identité en Christ. Nous sommes, et ça on l'entend souvent dans cette église, nous sommes ses enfants bien-aimés. Acceptons de prendre du temps pour soi, sans nous dire systématiquement que c'est de l'égoïsme. Il est légitime de prendre un temps pour soi, quand nos forces sont parfois épuisées. C'est Danny Boone, si l'élastique est trop tendu, ben il finit par casser. Ouais. Il est légitime d'avoir le besoin de s'arrêter, de se mettre à l'écart, sans devenir un chrétien solitaire, bien sûr. Se mettre au calme pour entendre la voix de Dieu se renouveler. Le Christ a plusieurs fois renvoyé les foules pour dire à ses disciples, reposez-vous un peu. Accepter de prendre du temps pour soi. C'est important. Et ce n'est pas en contradiction avec l'encouragement à la bienveillance que d'apprendre quelquefois à dire non. Je sais que moi, j'ai dû apprendre. C'était un de mes problèmes, pas savoir dire non. Soyons attentifs à ce qui fait notre joie. Je l'ai déjà dit récemment dans un message sur l'appel à servir. Cette attention à ce qui fait ma joie va m'aider à discerner ce qui est mon ministère particulier, là où je vais exceller. Être bienveillant envers soi-même, c'est aussi être patient. c'est être patient. Savoir attendre dans l'assurance de la réponse de Dieu, de la solution de Dieu. Souvenez-vous de Jérémie dans Lamentations 3, il dit « Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. » Les bontés de Dieu. Alors juste, je fais une deuxième pause où je prie comme ça, fermez vos yeux. Et je prie, voilà, pour, je ne sais pas, qui parmi vous peut-être manque de bienveillance envers lui-même. Je vais prier vraiment pour qu'il y ait un changement. Seigneur, viens toucher particulièrement ceux parmi nous qui ont du mal à appliquer cette bienveillance à eux-mêmes. Et ce matin, peut-être tu mets le doigt sur ce manque de bienveillance et par ton Saint-Esprit produis un changement. Aujourd'hui, un changement de regard sur eux-mêmes, un changement d'habitude, de réaction. Là où il y a peut-être trop de dureté envers soi-même. Voilà, produis cette bienveillance par ton Saint-Esprit. Et on voit bien dans l'image quelqu'un qui protège son cœur. Qui protège son cœur. Rien à voir avec l'égoïsme, rien à voir. Et donc si on est capable d'être bienveillant envers nous-mêmes, alors nous pourrons manifester la bienveillance envers les autres. Cultiver la bienveillance, on pourrait dire autrement, c'est travailler à son bonheur, pleinement conscient, bien sûr que ce bonheur a sa source dans le cœur bienveillant de Dieu, mais cultiver la bienveillance, c'est aussi ensuite communiquer ce bonheur aux autres. En fait, quand vous êtes bienveillant, vous communiquez ce bonheur aux autres.
Un cœur d'adoption, c'est
la voilà.
D'adoption.
Ouais.
Considéré comme une bénédiction et un besoin pour découvrir nos fautes et nos faiblesses, pour s'en débarrasser.
Amen. Merci, Odette. Voilà. Alors, pour cela, pas besoin de grands discours, d'actes héroïques, d'actions extraordinaires. Vous vous souvenez ce que Robert a dit là dans ce culte avec les anniversaires de mariage? Il disait, l'extraordinaire peut jaillir dans l'ordinaire. Hein? L'extraordinaire peut jaillir dans l'ordinaire. Et cette bienveillance qu'on apprend à appliquer à nous-mêmes, appliquons-la simplement aux autres. Comme il y a cette présence à soi, être bienveillant envers soi-même, c'est être présent à soi. Et qu'il y ait cette sainte présence à l'autre. Une présence désintéressée, sans jugement, sans chercher un retour. Une douce présence faite d'écoute et de compréhension. Ça, c'est la marque du chrétien. Ça, c'est la marque de l'enfant de Dieu. Et en dernière partie de ce message, j'aimerais vous donner simplement le témoignage d'une soirée qu'on a vécue avec Annette il y a 10 jours. On était invité à une célébration de départ d'une la fraternité œcuménique à l'homme. Qu'est-ce que c'est cette fraternité? C'est une petite communauté qui s'est créée il y a 7 ans dans ce qu'on appelle le quartier Humanicité, qui est quelque chose inspiré par l'Acato et qui est vraiment super parce que c'est un endroit où on prend soin des plus vulnérables, où on un petit périmètre, il y a l'hôpital Saint-Philibert, il y a Jean 23 avec des soins palliatifs, il y a un EHPAD, qu'est-ce qu'il y a encore, il y a la Bège aussi qui s'occupe là des gens un peu en difficulté, il y a un centre d'accueil Marthe et Marie, et voilà qu'il y a cette petite communauté de 7 ou 8 sœurs, et à la fin il n'était plus que 5 ou 6, ou 6 même pas 4 ou 5, je ne sais plus, hein. Toutes âgées. Peut-être la plus jeune elle avait peut-être 70 ans, je ne sais pas, mais vraiment, tout âgé. Et pendant 7 ans, ils ont offert leur discrète présence par des visites constantes dans les hôpitaux. Ils passaient, apportaient leur sourire simplement. Et puis ils avaient une petite chapelle, ils accueillaient ceux qui voulaient venir, ils partageaient l'Eucharistie ou la scène, ou la parole de Dieu, la prière. Ils avaient des soirées aux invités. Le jeudi soir, on est allé plusieurs fois avec Annette, avec Christine et Jacques aussi. Rémi, t'as jamais pu trouver le lieu, malheureusement. Bon, voilà. Et donc, c'était touchant. Cette communauté, c'était vraiment touchant. C'était des humbles personnes. Ce sont de humbles personnes. Mais le monde qu'il y avait à cette célébration du départ, incroyable. Et même des malades étaient là, des handicapés étaient là. Et je me souviens, donc, c'était la semaine dernière, donc, hein, pas cette semaine ici, mais la semaine d'avant. Et j'avais reçu le mot bienveillance déjà pour ce message. Et je demandais à Dieu, donne-moi des confirmations quand même. Et puis dans cette soirée, il y avait des petits discours de quelques personnes. Et chacune a dit le mot bienveillance. Alors je dis, merci Seigneur, c'est une confirmation pour mon message. Mais pour distinguer ces sœurs, quoi, en fait, il y avait le mot bienveillance. Et il y a eu une parole extraordinaire qui a été partagée par le pasteur de l'église réformée, Jan Roetman. C'était vraiment super la parole, d'ailleurs c'était vraiment apprécié par tout le monde. Pour illustrer ce témoignage humble et bienveillant de ses sœurs, et je vais terminer avec cette parole. Et tout ce que je dis maintenant, c'est inspiré de, c'est pas de moi, mais c'est vraiment inspiré de ce pasteur. Et je crois que ça va vous encourager, nous encourager. Ça va élargir notre foi. Et cette parole, alors on va revenir, oui, peut-être, on va revenir, oui, au diaporama, voilà. On va revenir au diaporama. Moi, j'ai encore une ou deux diapos, c'est tout. Cette parole s'est tirée de Matthieu 13, versets 31-32. Voilà, la parabole de la graine de moutarde. Ouais. Il leur proposa, Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ah, beau cette image, hein ? Les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Alors c'est curieux cette parole, parce que l'accent n'est pas mis sur la récolte des graines de moutarde. On n'en parle pas. Le pasteur a utilisé l'image des saucisses qu'on aime bien manger avec de la moutarde. Il dit voilà, oubliez les saucisses, oubliez tout ça. Non, l'accent n'est pas mis sur la récolte des graines de la moutarde, mais sur les oiseaux du ciel qui font leur nid dans les arbres et qui préparent leur avenir. Et il a dit ceci, chacun sème en vue d'une récolte, mais l'évangile ici déplace le curseur. Il nous invite à considérer l'effet secondaire à notre insu. Le fruit de cet esprit bienveillant, pourrait dire le fruit de la foi en général, n'est pas forcément là où tu penses qu'il doit être. La foi porte toujours des fruits insoupçonnés qui échappent à notre contrôle. Et il y a un autre aspect de cette parabole qui est frappant. La moutarde est une plante assez ordinaire. Elle est presque considérée comme de la mauvaise herbe. Et pourquoi comparer le royaume de Dieu à cette plante que Jésus va même qualifier comme un arbre? N'y a-t-il pas d'autres arbres plus nobles? Par exemple, un cèdre, considéré comme le roi des arbres. Les rois et les princes n'aiment-ils pas se comparer justement aux branches d'un cèdre? Et leurs palais ne sont-ils pas construits du bois des cèdres? Bien plus, les cèdres n'ont-ils pas la vocation d'habiter les animaux, les oiseaux, dans ces branches puissantes? L'évangile atteste que cette plante de moutarde, si ordinaire, est capable d'offrir la même chose qu'un cèdre royal. Une fois devenue un arbre, la plante du rien du tout produit beaucoup d'ombre, capable même d'accueillir autant de monde qu'un cèdre. Voilà le message, a conclu le pasteur. Il a dit, la fragilité de cette fraternité œcuménique n'a pas empêché d'accueillir en son sein beaucoup d'oiseaux. Beaucoup sont venus pour prier avec elle, des jeudis soirs. Beaucoup sont venus pour méditer avec l'argile, c'était une des activités de cette fraternité. Beaucoup pour vivre un temps de retraite. Personne n'a besoin d'être un cèdre pour pouvoir être une bénédiction, vous entendez ? Personne n'a besoin d'être un cèdre pour être une bénédiction, un refuge, un soutien. Chaque instant de notre vie, s'il manifeste la bienveillance, comme ses humbles sœurs l'ont manifesté, peut être une bénédiction. Si tu penses que ta vie ressemble à une graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences, et qu'elle ne sert à rien, eh bien, tu as tort. Pense à cette parabole. Chacun qui laisse croître dans son cœur la semence de foi et de l'espérance en manifestant le fruit de la bienveillance participe à l'avenue du royaume dans ce monde. Pas besoin d'être un cèdre. Nous sommes tous et ensemble cet arbre à moutarde qui ne chasse pas les oiseaux du ciel mais les accueille, qui ne chasse pas les oiseaux de notre temps mais les accueille. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, hein, ces oiseaux qui cherchent un abri pour prier, pour réfléchir au sens de leur existence, pour être écoutés, reconnus, visités, pour pouvoir reconstruire leur avenir. Voilà ces fruits insoupçonnés. Ce n'est pas forcément des gens qui vont être fréquentés constamment notre Église. Si nos seules visions des fruits, bien sûr que je souhaite que notre Église grandisse, hein, c'est clair et net. Mais si notre seule vision des fruits est fixée là-dessus, c'est beaucoup trop étroit. Il y a des fruits insoupçonnés. Et Dieu m'a donné un exemple dans cette période en préparant mon message. J'ai eu l'occasion d'être piraté. J'étais piraté dans ma boîte mail. Hein, bon, voilà, comme beaucoup, ça arrive, il y en a plein de gens. Et j'ai eu la surprise d'avoir des appels téléphoniques de personnes. Je n'avais plus de nouvelles depuis 5 ans. Je me disais, mais pourquoi j'arrive pas? Même j'ai essayé de les contacter, je n'y arrivais pas. Et des personnes avec qui j'avais plus de nouvelles depuis 5 ans m'ont appelé. Bon, certains m'ont appelé pour dire t'as été piraté, d'autres ils étaient vraiment inquiets. Ils croyaient vraiment que j'allais pas bien. Ouais. Et on a eu même l'occasion cette semaine de recevoir une de ces personnes qu'on n'avait pas vue depuis 5 ans. Qui m'a fait le cadeau d'une bouteille de vin à ma date de naissance, 1953. Ouais. Mais voyez, il y a parfois on sème. Voilà, j'avais semé quelque chose dans ces gens, mais la semence n'est pas perdue. Le Seigneur voulait me dire ça, en quelque sorte. La semence n'est jamais perdue. Si tu sèmes la bienveillance, les gens vont se construire. Et les gens ne peuvent construire que s'il y a cette bienveillance. Il y a quelqu'un qui a dit, si l'on s'attend au pire, personne ne bougera. Si l'on s'attend au pire chez les gens, il n'y aura aucun mouvement. Mais si nous manifestons cette bienveillance, les gens, en confiance, retrouvent la force d'espérer et de construire leur avenir. Amen. On prie, d'accord ? On va prier. Hein. On va demander vraiment que notre Église, la marque de cette Église, je crois qu'elle est déjà là, cette marque. Je crois, hein, je pense que souvent quand on parle de Wavrin, on dit c'est une Église accueillante, mais une Église qui manifeste, que chacune de nos vies manifeste la bienveillance. D'accord ? On va demander ça au Seigneur. Amen ? Allez, je vous invite à vous lever. Je termine avec ça. Hein. Midi tout juste, c'est bon. Voilà, Seigneur. On va demander ça, vraiment, voilà, on va demander que ça, cette bienveillance nous habite. Voilà, fort de cet encouragement que tu nous donnes ce matin, Seigneur, nous voulons semer avec foi ce fruit de la bienveillance, ce fruit de l'esprit qu'est la bienveillance. Que toutes nos pensées, tous nos actes soient empreints de cette bienveillance. que notre vie respire, dégage ce parfum de la bienveillance dans les choses ordinaires de la vie, ce parfum divin. Merci pour la promesse de nombreux fruits insoupçonnés. Merci pour ces âmes qui, à notre contact, vont trouver un refuge, vont trouver la force d'espérer et la force de construire leur avenir. Amen.